Alors, écoutez, j'aimerais encore prier et remettre le moment du message au Seigneur, que sa parole fasse tout son effet dans nos vies. D'accord? On va prier. Seigneur, c'est un privilège encore de pouvoir librement, ici dans ce pays, ouvrir la parole de Dieu, Seigneur, et l'examiner. Et Seigneur, nous te demandons que ce ne soit pas uniquement un exercice intellectuel, mais que, Seigneur, ta parole touche nos cœurs et nos vies. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander d'agir par ton Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Que nous te connaissions, que nous ne te connaissions pas encore, Seigneur, fais ton œuvre. Et je te remercie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Timothée chapitre 6. Et aujourd'hui, nous abordons, je crois, notre dernier message dans 1 Timothée. Notre dernier message dans 1 Timothée. Nous avons terminé la semaine dernière notre série sur l'argent. Donc, c'était la première partie du chapitre 6. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6, les versets 11 à 16 et encore 20 à 21. Et là, nous voulons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Les vertus d'un homme de Dieu ». Les vertus d'un homme de Dieu. On va en premier lire 1 Timothée 6 à partir du verset 11. D'accord ? On va lire. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et le verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Les vertus d'un homme de Dieu. Regardez le verset 11. Paul écrit à Timothée, il dit « Pour toi, homme de Dieu ». Paul écrit à Timothée et l'appelle « homme de Dieu ». Alors le contexte, c'est que l'apôtre Paul écrit à Timothée, ce jeune disciple, ce jeune pasteur qu'il a laissé à Éphèse afin de mettre en ordre cette église. Et dans ce verset, à la fin de cette première épître, Paul rappelle à ce jeune pasteur comment doit se comporter un homme de Dieu. En fait, il lui dit, Timothée, rappelle-toi que tu es un homme de Dieu et qu'ainsi tu dois vivre comme un homme de Dieu. C'était un terme qu'on utilisait souvent dans l'Ancien Testament pour décrire un prophète, comme dans 1 Samuel 2, 27. Regardez dans votre concordance, vous verrez « homme de Dieu » très souvent apparaître dans l'Ancien Testament, mais que deux fois dans le Nouveau Testament. Alors ce titre a deux facettes, « homme de Dieu ». Anthropo-théo, donc c'est deux mots en grec, d'accord ? Homme, le terme homme révèle simplement que c'est un humain. Un homme, nous sommes des hommes. Je pense que là, il y a, bien sûr, il parle à un homme, mais je pense que les points qu'on va voir peuvent s'appliquer bien sûr à des femmes aussi. Nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'est un terme dans ce sens-là. Et l'humanité de l'homme parle de ses faiblesses, de ses tentations aussi, du mal inné qui existe en lui. L'homme, nous le savons, nous dit Ecclésiaste 7:20, nous dit ceci, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. L'homme est pécheur de nature. » Et même lorsqu'il est pardonné par Jésus-Christ, cet homme est conscient de sa nature pécheresse. Donc c'est un homme, mais de Dieu. que malgré ses faiblesses, par le biais de Jésus-Christ qui l'a pardonné, il est maintenant de Dieu. Cela me rappelle 1 Corinthiens 6, 20, qui nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » N'est-ce pas intéressant? Lorsque nous sommes rachetés par Christ, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu qui, par le sang de son Fils, nous a rachetés à grand prix. Il a été la rançon pour nous. Il est mort à notre place, crucifié à notre place, ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Notre salut a coûté une vie, celle du Fils de Dieu. Et donc, nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons. Et donc, l'homme appartient maintenant à Dieu. Sa vie est conduite par le Seigneur, une vie imbibée de haut en bas par Dieu. Alors ça, c'est le thème. Quelles devraient être les vertus d'un homme de Dieu? Comment on le reconnaît? Eh bien, c'est intéressant que dans ce texte, la clé pour découvrir les vertus de l'homme de Dieu se situe dans les verbes. Si on prend le texte et on réexamine les verbes, on verra que ce sont en fait ces verbes d'action qui décrivent comment devrait se comporter un homme de Dieu. Et en fait, il y en a 7. Donc le plan de mon message, devinez combien de points il y a? 7, d'accord. En fait, vous verrez. 7 points, d'accord? Dans deux des cas, on ne prend pas le verbe exactement, mais vous allez voir comment ça marche. Alors, comment l'homme de Dieu est-il caractérisé? Bien, regardez. Premièrement, l'homme de Dieu est caractérisé par ce qu'il fuit. Par ce qu'il fuit. Verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Fuis ces choses. C'est intéressant que l'homme de Dieu, biblique, est caractérisé premièrement par la fuite. La fuite, un impératif présent qui dénote une fuite continue. C'est pas un sprint. C'est une fuite continue pour toute sa vie. C'est une action perpétuelle de fuir les embûches de l'ennemi. Vous savez que Satan va toujours chercher à tenter l'homme de Dieu pour le faire trébucher, pour le discréditer. Ben non. Non, parce que l'homme de Dieu fuit. Il fuit. Alors, quelles sont les choses qu'il doit fuir? Bien, regardez, il faut reculer. Il dit, fuis ces choses. Quelles choses? Eh bien, il faut aller à l'antécédent. Verset 3 du même chapitre. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Donc, la première chose que l'homme de Dieu doit fuir, ce sont les fausses doctrines. L'homme de Dieu aime la pureté doctrinale. Il cherche de tout cœur à marcher dans la vérité. Lorsque l'erreur est promulguée, il réagit. Lorsque l'erreur n'est pas corrigée, il réagit. Il comprend les grandes doctrines de la vie chrétienne et cherche à être fidèle dans leur explication. Il rejette l'erreur, il fuit l'erreur. Verset 4 nous dit aussi qu'il fuit l'orgueil, parce que celui qui prêche les fausses doctrines est enflé d'orgueil, et donc lui qui aime la vérité est libre d'orgueil, il fuit l'orgueil. Il est conscient lorsque l'orgueil frappe à sa porte, et il repousse cette tendance innée en lui. Lorsqu'il est honoré, il sait rester neutre, il sait garder la tête bien face aux honneurs qu'il pourrait recevoir, et il arrive très facilement à demander pardon lorsqu'il offense quelqu'un. Celui qui demande pardon facilement, c'est celui qui est humble, car il reconnaît ses erreurs. Versets 4 et 5 nous parlent aussi de disputes. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il est malade des questions oiseuses et de disputes de mots. L'homme de Dieu fuit les disputes. Il ne cherche pas systématiquement et toujours avoir raison sur tout. Il est humble. Et il n'aime pas se disputer avec d'autres. Alors bien sûr, il y a un dialogue doctrinal qui est légitime et qui doit exister, mais la dispute, c'est autre chose. Il fuit encore l'amour de l'argent. Verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il n'est pas possédé par l'argent. Il arrive facilement à donner. de son argent à ceux qui sont le besoin et au Seigneur. Il pratique la libéralité. Son travail n'est pas devenu tout puissant dans sa vie. Il sait contrôler sa propre vie et il sait trouver l'équilibre entre le travail, entre la famille et entre le Seigneur. Car c'est le Seigneur qui est sur le trône de sa vie. Il y a d'autres choses encore qu'il doit fuir qui ne sont pas dans ce texte-là, mais par exemple dans 2 Timothée 2:21, il dit ceci, « Fuis les passions de la jeunesse. » Fuis les passions de la jeunesse, voilà autre chose qu'il doit fuir. Il n'est pas facilement remonté lorsqu'il est offusqué, parce que les jeunes, souvent, vous savez, ils sont un petit peu, enfin, très émotionnels. Bon, parfois, les moins jeunes aussi. Hein. Mais les jeunes ont une passion particulière. Ils savent contrôler leur vitesse. Ils savent contrôler leurs appétits, leurs émotions, leur colère, leur passion sexuelle. En Corinthiens 10 nous donne encore autre chose qu'il doit fuir. En Corinthiens 10, verset 14, nous dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Fuyez l'idolâtrie. C'est intéressant ça, je trouve, non ? Il n'est pas attiré par ce qui n'est pas clairement de Dieu et de Jésus-Christ. Il n'est pas facilement influencé par l'erreur, aussi subtile soit-elle. Il n'y a pas chez lui une tendance à la paresse spirituelle. Non, il est discipliné dans le Seigneur, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la communion fraternelle, dans l'Église. C'est un homme qui a peur de l'erreur et peur de l'idolâtrie. Il ne veut qu'il n'y ait aucun autre Dieu, mais que le Dieu de la parole de Dieu qui soit son Dieu. Il y a encore une chose qu'il doit fuir. En Corinthiens 6 et le verset 18. Trois mots. Fuyez la débauche sexuelle. Oui, il peut être tenté, mais il ne cède pas aux tentations sexuelles qui l'entourent. Il sait dire non lorsque la débauche sexuelle frappe à sa porte. Il sait contrôler son corps, il sait contrôler ses regards. S'il est célibataire, il décide de se réserver sexuellement pour le conjoint chrétien que Dieu lui donnera un jour si telle est sa volonté. S'il est marié, alors ses regards ne sont que pour une femme ou un homme, si c'est une femme bien sûr, la sienne ou le sien. Il contrôle le domaine sexuel de sa vie. Et donc, l'homme de Dieu fuit ces choses instinctivement parce qu'il sait très bien que ces choses vont à l'encontre de sa nouvelle nature. Éphésiens 4, 24 nous dit que l'homme est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il est imbibé de Christ, il est imbibé de la vérité et cette vérité produit en lui une justice et une sainteté et donc tout ce qui est contraire à cette justice et à cette sainteté, il fuit. Il fuit. Ça, c'est que le premier point. D'accord ? Alors, l'homme de Dieu est caractérisé premièrement par ce qu'il fuit. Deuxièmement, l'homme de Dieu est caractérisé par ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche. Dans Timothée 6, 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. » Ça, c'est clair, hein ? Recherche. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Alors quel contraste ! Il fuit quelque chose, mais il recherche autre chose. D'un côté, il fuit le mal, mais de l'autre côté, il cherche ou poursuit la piété, la vérité, le Seigneur. La justice, premier point, première chose qu'il doit rechercher, la justice. Littéralement, la droiture, l'équité, l'impartialité. Alors, bien sûr, le chrétien est déjà juste devant Dieu. Il était justifié par le sang de Christ. Il était déclaré innocent. Mais ici, Paul parle de la justice pratique et quotidienne. Oui, il est né de nouveau, pardonné. Maintenant, sa vie reflète cela. Et moi, je regarde souvent la vie chrétienne, ce qu'on appelle la sanctification, un peu comme la bourse. Il y a un progrès, la sainteté va en croissance dans sa vie et le péché va en diminution dans sa vie. Mais c'est souvent comme la bourse, vous savez. La bourse, elle monte, des fois elle descend beaucoup, mais des fois elle remonte. Enfin, elle remonte toujours, la bourse, c'est ce qu'ils disent. Et donc la vie chrétienne, c'est un peu comme ça, c'est du haut et le... Mais il y a toujours une constante vers le haut. Toujours la justice qui prime. Deuxièmement, il doit rechercher la piété, ce fervent attachement au service de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'un chrétien, alors ce mot pieux, on le comprend mal, c'est simplement la piété, c'est quelqu'un qui est amoureux du Seigneur. Il vit sa vie amoureux du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on devient amoureux du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il prend la première place dans notre vie? C'est simple, parce que Galates 2:20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ça la caractéristique d'un chrétien, c'est incroyable. À un moment donné, le jour où on a cru en Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour où on a cru en Christ et on a demander à Jésus-Christ de rentrer en nous, de devenir notre Sauveur et notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Jésus-Christ rentre littéralement, alors pas physiquement, mais spirituellement, il rentre littéralement dans notre vie, dans notre cœur, et il vit sa vie au travers de nous. Le moi est détrôné par rapport à Christ qui est sur le trône de notre vie. Et voilà pourquoi nous aimons le Seigneur, parce qu'il vit au travers de nous et il transforme notre vie. Donc nous devons rechercher la justice, la piété, la foi, cette ferme confiance en Dieu. C'est l'assurance d'une vie qui fait confiance à Dieu dans toute situation. C'est ça, une des grandes différences avec un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien, même dans le drame, dans la difficulté, dans la peine, dans la souffrance, et puisqu'il vit dans le monde, il va connaître ces choses, eh bien, il y a quelque chose en lui où il sait que Dieu est souverain même dans la souffrance terrible de sa vie. Et donc, il peut honorer le Seigneur, il peut le bénir, même au travers de ses larmes. Un non-chrétien, lui, ne peut pas bénir le Seigneur, il ne le connaît pas. Il doit rechercher l'amour. L'amour, disposition à vouloir le bien d'un autre et se dévouer à lui ou à elle. Un des fruits de l'esprit. Il y a quelque chose en lui qui veut maintenant aimer les autres et les aider. Il doit encore chercher la patience, la vertu qui consiste à supporter les désagréments et les malheurs. Quand les choses vont mal, on réagit un petit peu moins mal. Et cela, on progresse. Et la douceur. Cette qualité morale qui consiste à ne pas heurter autrui de front, mais être patient, conciliant, affectueux. Donc, l'homme de Dieu est caractérisé premièrement par ce qu'il fuit et deuxièmement par ce qu'il recherche. Ça fait déjà beaucoup, vous ne trouvez pas? Mais ça, c'est qu'un verset. Allez, on continue. D'accord? Alors, l'homme de Dieu, premièrement, est caractérisé par ce qu'il fuit, deuxièmement par ce qu'il recherche, troisièmement par ce qu'il combat. Par ce qu'il combat. Verset 12. Combat, le bon combat de la foi. Alors, ces quelques mots nous apprennent plusieurs choses sur la nature du combat. C'est quand même intéressant. On est dans un combat. D'accord? Bon, pas oublier ça. La première chose qu'on apprend ici, c'est que le combat est féroce. Et ça, on l'apprend par le mot choisi. Intéressant, le petit mot que vous connaissez. Hein. Je vais dire en grec, mais vous allez reconnaître le mot. Agonizomai. Vous avez reconnu le petit mot, là? Agonie. En fait, c'est intéressant. Ce terme est un terme emprunté du monde athlétique. C'est un terme d'athlète. Il faut ici avoir l'image d'un athlète qui se donne à fond pour son sport. Alors, il y a aussi le combat de guerrier. Nous sommes aussi dans un combat de guerre. Éphésiens 6 nous parle que nous devons mettre l'armure pour nous défendre de Satan et des démons. Donc, il y a un combat littéralement de guerre. Mais ici, c'est un combat athlétique. Très intéressant. En français, c'est le même mot, mais pas en grec. Alors, dans quel sens est-ce que c'est une agonie sportive? Ben, pensons à la boxe, par exemple. Je ne sais pas si vous aimez la boxe. Notre fils aîné, imaginez, a trouvé un nouveau sport. C'est la boxe. Il aime bien la boxe. D'accord? Mais alors, la boxe d'aujourd'hui est très différente que la boxe d'autrefois. Car apparemment, ce que j'ai lu par rapport à la boxe d'autrefois, à l'époque, les boxeurs n'avaient pas des gants rembourrés comme aujourd'hui, calfeutrés avec 20 cm de calfeutrage. Au contraire, ils avaient des gants dont les extrémités étaient remplies de fer ou de plomb. Et, tenez-vous bien, on crevait l'œil du perdant. Tout d'un coup, la boxe vient de changer de dimension, là, un tout petit peu. Hein. Alors, revenons sur Terre à un sport que moi, j'apprécie énormément, de plus en plus. C'est le hockey sur glace. Tiens, comment vous le saviez? D'accord. Alors, pour que ceux qui ne le savent pas, je suis l'aumônier de l'équipe Neuf-Servette. Mais c'est intéressant parce que mardi dernier, on était à un match et j'ai pensé à ce verset, à ce mot. J'aimerais vous décrire ce match, d'accord? Je ne sais pas si vous n'êtes pas dans le hockey, mais c'était un match incroyable, d'accord? Qui m'a fait penser à l'agonie du sport. Alors, c'était Genève Servette contre Berne. Berne était, à l'époque, numéro 1 en Suisse. Nous étions, je crois, le numéro 5. Le 15 septembre dernier, Genève Servette est allé à Berne, dans leur camp. Et imaginez, nous avons battu Berne 5-3. Alors là, c'était quand même un exploit. Et c'était l'humiliation de l'équipe de Berne. Du presque jamais vu, dans leur camp en plus. Mais attention, l'ours de Berne s'est réveillé. La revanche était prévue pour mardi dernier au Vernet. Il fallait qu'ils sauvent leur honneur. Et nous, on devait leur montrer qu'on était plus forts. Le jour J est arrivé. Les gradins étaient pleins. L'énergie étonnante de ce match était du jamais vu. À partir de la première mise en jeu du palais, le match était speed. Nous sommes maintenant dans la première période, il y en a trois. Soudainement, c'est le délire. Imaginez, Genève, Servette, ouvre avec un premier but. Ah, les gradins, mais alors c'est le délire incroyable dans les gradins. Et en quelques minutes, imaginez, Genève, Servette, marque de nouveau. 2-0. Alors là, on n'arrive plus à rien entendre, tellement les cris sont forts. On arrive au deuxième tiers-temps, on rentre 2-0 sur la glace, mais tout change très vite. Berne, l'ours se réveille, marque un but. En quelques minutes, Berne marque de nouveau, deuxième but. C'est la consternation dans le camp genevois, ils sont maintenant ex aequo. Puis, tenez-vous bien, Berne marque un troisième but. Il marque 3 buts en 10 minutes. Nous sommes démoralisés. Nous sommes devancés 3-2 dans notre camp. Et le deuxième tiers se terminait avec ce triste constat. Que va faire Genève Servette? Troisième tiers-temps commence. L'aigle genevois doit s'envoler au-dessus de l'ours de Berne et l'attaquer. Il n'y a pas le choix. Le troisième tiers-temps acharné se déroule à une allure inimaginable. Et soudainement, imaginez, 5 minutes avant la fin du match, c'est la jubilation lorsque Genève Servette marque un troisième but. On a l'impression que le toit des Vernets va s'effondrer tellement fort sont les cris des supporters genevois. Nous sommes maintenant ex aequo. La fin du match arrive, prolongation. 5 minutes, 4-4. Les joueurs sont tellement fatigués qu'on a l'impression qu'ils patinent sur de la boue. C'est lent et c'est dur. Mais les prolongations ne donnent rien. Et donc on passe maintenant au tir au but. 5 tirs de chaque côté. Berne commence et rate. Nous suivons et nous marquons. Waouh ! Nous sommes en train de gagner. Berne retire, rate. Nous tirons, nous ratons. Berne retire, rate. Nous tirons, nous ratons. Berne tire, rate. Imaginez, nous tirons 5-3. Le match est fini. Nous venons de gagner le match. C'était incroyable. L'attention jusqu'à la fin du match. Et nous venions de battre Berne une deuxième fois. La première équipe de Suisse, mais cette fois dans notre camp. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Je savais que vous alliez poser la question. Eh bien, après le match, comme je le fais après chaque match, je vais au vestiaire pour parler avec les joueurs, parce que je suis l'aumônier. Et c'est intéressant, les joueurs voulaient parler avec moi. Donc je suis arrivé vers lui, il venait de sortir de la glace, et il a commencé à parler, il voulait parler. Alors j'écoutais, je me suis agenouillé devant lui, et je l'écoutais. Alors ce qui m'a frappé, c'est pas ce qu'il me disait. Ce qui m'a frappé, c'était sa transpiration. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Il dégoulinait, mais franchement, c'était continu. Il y avait des gouttes, mais des gouttes qui tombaient de ses oreilles, de son nez, de ses joues, de son... Ça dégoulinait. Hein. Il me parlait, et moi je voyais de l'eau. Il était trempé, le gars, de A à zéro, complètement trempé. Et l'eau continuait, la sueur continuait de couler. Et j'ai pensé au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Et je me suis posé la question, John, toi, est-ce que toi, tu te donnes à l'œuvre du Seigneur au point de suer comme ça? Est-ce que toi, la vie de la foi chrétienne, tu combats, tu te donnes à 110% comme eux se donnent pour leur match de hockey? Et pour moi, c'était une illustration frappante. Est-ce que je suis un chrétien à 30%, 60%, 80%, 100%, 110%? Le combat est bon. Ce combat est bon. Combat le bon combat de la foi. C'est un combat noble, un combat théologique de la foi. Jude 3 nous parle de ce même combat de la foi avec article qui parle vraiment de toute la vérité chrétienne, la foi chrétienne, le contenu de la parole de Dieu. Vous voyez, nous combattons comme des sportifs et voici notre palais quelque part. Voici le but à marquer, c'est la parole de Dieu. Nous nous battons et nous nous rebattons jusqu'à suer pour la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ta première passion, homme de Dieu? Et rappelons-nous aussi que le combat est très long, car dans 2 Timothée 4, 7, Paul, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pas un sprint, c'est un combat à sueur, 110% jusqu'à la fin. Donc, l'homme de Dieu est caractérisé, 1, par ce qu'il fuit, 2, par ce qu'il recherche, 3, par ce qu'il combat, 4, par ce qu'il saisit, par ce qu'il saisit. Regardez le verset 12, combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors bien sûr, Timothée avait déjà la vie éternelle, c'était un chrétien, il était né de nouveau. Donc il n'est pas en train de lui dire « deviens chrétien ». Non, il dit à ce chrétien, cet homme qui est déjà un homme de Dieu, « saisis la vie éternelle ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Vis ta vie à la lumière de la vie éternelle, à la lumière de l'éternité. Alors bien sûr, nous vivons ici sur terre dans la chair. Mais Philippiens 3:20 nous dit quoi ? Que nous sommes citoyens des cieux, mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Voyez-vous, on est déjà citoyens des cieux en tant que chrétiens. Oui, nous vivons sur terre, mais nous sommes, d'une manière qu'on arrive à peine comprendre à décrire, nous avons déjà une place au ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Et Colossiens 3 nous dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Si donc, verset 1, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, et où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyez-vous, nous saisissons la vie éternelle. Car nous sommes quelque part déjà là-haut, mes amis. Et notre regard est déjà là-haut. Et si notre regard n'est pas là-haut, on va être moins zélé pour le Seigneur. Ça, c'est évident. Parce qu'on va être pris par les affaires de ce monde. Et nous devons toujours avoir le regard de l'éternité, sachant que tout ce qu'on fait ici, c'est pour l'éternité. saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je ne sais pas exactement à quoi il fait référence, à quel moment, de quel moment est-ce que c'est sa conversion, ou le moment où le Seigneur l'a appelé par Paul, on ne sait pas exactement. Parce qu'il dit, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors de nouveau, à quel moment est-ce qu'il a fait cette confession? Est-ce que c'était à sa conversion? Est-ce que c'était à son baptême? Ou est-ce que c'est quand Paul l'a pris dans Acte 16 pour devenir missionnaire avec lui? Tout ce que nous savons, c'est qu'il a fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors c'est intéressant, apparemment il y a un petit refroidissement là chez Timothée. Et Paul lui dit, écoute, tu as fait une confession claire et nette. C'est pour ça, c'est très important le baptême. Au fait, puisqu'on en parle, le 17 janvier, il y aura des baptêmes. Et donc vous allez bientôt recevoir de l'information sur un petit cours de quelques semaines pour être baptisé si vous n'êtes pas encore. Mais lors des baptêmes, nous demandons aux gens, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as donné ta vie à Christ comme sauveur et Seigneur? Oui. Est-ce que tu es prêt à le suivre pour le reste de ta vie fidèlement? Et la personne répond oui. Mais écoutez, c'est un témoignage public. Oui, j'affirme aujourd'hui que je veux être fidèle jusqu'au bout. Et là, Paul rappelle à Timothée, attention, tu as fait une confession. C'est comme un engagement de mariage, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, public. Donc, l'homme de Dieu saisit la vie éternelle. Il vit à la lumière de l'éternité. 5. L'homme de Dieu est caractérisé par ce qu'il fuit, ce qu'il recherche, ce qu'il combat, ce qu'il saisit, par, cinquièmement, ce qu'il garde. Ce qu'il garde. Regardez le verset 13. Verset 13, parce que c'est vraiment la continuation de la phrase. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Donc voilà le verbe. Je te recommande de garder le commandement. Alors lorsqu'il dit je te recommande, c'est une formule solennelle qui rappelle la formule la même dans 1 Timothée 5, 21, dans 2 Timothée 4:1. Par exemple, dans 2 Timothée 4:1, je vais le lire, il dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Ah, c'est pas de la rigolade, il est en train de dire écoute, j'appelle Dieu et Christ en tant que témoin, fais ceci. Et là, il dit pareil. Il dit je te recommande, verset 13, devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate. C'est intéressant, je trouve très intéressant ici. Il appelle deux témoins. Il appelle Dieu, devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Timothée, je vais te donner un ordre maintenant. Attention, Dieu est témoin. Dieu est témoin. Et Jésus-Christ est témoin. Devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate. C'est intéressant. Bien sûr, tout est intéressant, je le dis souvent, ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu 27, 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Oui, je suis le roi des Juifs. Oui, je suis le Messie. Public, clair, net. Il dit, « Timothée, t'as fait pareil. T'as fait une confession nette, claire. Tiens-la. Jusqu'au bout, comme ton sauveur. » Il a payé cher cette confession. Il a été crucifié. Donc, je te conjure, je te recommande, devant Dieu que j'appelle à témoin et devant Christ que j'appelle en témoin, de garder le commandement. Ah, c'est beau, hein? Garde le commandement. Verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt. C'est quoi? De nouveau, on revient à la parole de Dieu. C'est le dépôt de la vérité, le commandement de Dieu. Garde-le précieux. Garde-le précieux, précieusement. Ô Timothée, garde le dépôt. En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui ne sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Timothée, sois un bibliciste. Sois un homme de la parole. Ne te détourne pas de la parole. Garde le commandement. Jésus l'a gardé. Toi, fais pareil. Même si ça te coûte. C'est intéressant, dans 1 Timothée 4, 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. » L'homme de Dieu doit en premier veiller à sa propre vie, deuxièmement, à son enseignement, à la parole de Dieu. 6. L'homme de Dieu est caractérisé par ce qu'il fuit, ce qu'il recherche, ce qu'il combat, ce qu'il saisit, ce qu'il garde. Sixièmement, par ce qu'il applique. Par ce qu'il applique. Verset 14 encore. Je te recommande de garder le commandement, verset 14, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, mes amis, la barre, elle est hyper haute, là. Je ne sais pas si vous avez vraiment saisi ce qu'il vient de dire. Timothée, homme de Dieu, je te commande, avec deux témoins, Dieu et Christ, de garder le commandement, parole de Dieu, mais aussi de vivre sans tache et sans reproche. Vous dites, mais John, c'est impossible. Alors humainement, c'est impossible, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire sans péché? Non. Non, ça on l'a déjà vu lorsqu'on a regardé la qualification des anciens. Ça ne veut pas dire sans péché. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. 1 Jean 1, 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. Donc ça ne peut pas dire ça, puisque ça veut dire qu'on serait menteur. Et puis, comme j'ai déjà souvent dit, si vous voulez savoir si je suis pécheur, demandez à mon épouse. C'est vite vu. C'est impossible de ne pas être pécheur. On est tous pécheurs. On est rachetés par Christ. Et même si notre sanctification est progressive, elle va en montant, en pensée, en parole et en action, on va tôt ou tard pécher. C'est pas possible de ne pas pécher. Alors, quelle est la clé? Ça veut dire quoi être sans reproche? Moi, je crois que ça veut dire ceci. Deux choses. Premièrement, lorsqu'on pêche, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est 1 Jean 9, c'est le verset que j'ai sauté. Il dit verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah oui, l'homme de Dieu, lorsqu'il pêche en pensée, lorsqu'il pêche en parole, lorsqu'il pêche en action, et il va pécher rapidement, il confesse. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Là, j'ai fait une bêtise, une erreur. S'il te plaît, je te demande pardon. Le sang de Christ m'a pardonné. Moi, souvent, ce que je faisais au début de ma vie chrétienne, quand je péchais, j'écrivais le péché sur un bout de papier et ensuite j'écrivais en rouge 1 Jean 1, 9, où il est dit que Christ me pardonne. Et ensuite, je prenais ce bout de papier et je le jetais ou je le brûlais pour montrer ce que Christ a fait de mes péchés. Il les a pardonnés. Mais il faut toujours confesser ce péché. Et l'homme de Dieu va le faire tellement rapidement. La période de temps entre son péché et la confession est tellement rapide que personne ne s'en apercevra. Et donc, être sans reproche, ça veut dire qu'il n'y a rien dans sa vie vers lequel on peut pointer le doigt et dire « là, il y a un pépin non réglé dans sa vie ». Il n'y a rien de continu, de perpétuel, qui revient régulièrement dans sa vie, qui est reprochable. Il est irreprochable. Pourquoi? Parce que rapidement, il traite ce problème de péché. Ça, c'est la clé. Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. On se préserve des souillures du monde. Ça, c'est le vivre sans tache. C'est fuir ce qui est du monde et se rattacher et rechercher les choses qui sont du Seigneur. Ça nous amène au septième point. L'homme de Dieu est septièmement caractérisé par ce qu'il attend. Par ce qu'il attend. Regardez, tellement beau, verset 14. Verset 13, je te recommande, verset 14, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est un peu comme le point 4 où il saisit la vie éternelle ici. L'homme de Dieu est en attente perpétuelle du retour de Jésus-Christ. Il sait que ça va arriver. Il ne sait pas quand, un jour ou une autre, mais il sait que ça pourrait arriver cet après-midi. Imaginez, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Christ revient cet après-midi? Alors, faites attention dans votre réponse, d'accord? On devrait pouvoir dire, ben oui, s'il peut revenir à n'importe quel moment, si son retour est imminent, est-ce que ça pourrait être cet après-midi? Alors la probabilité humaine, hein, puisqu'il n'est pas encore revenu, on se dit, bon, est-ce que ça va vraiment être cet après-midi? Ben écoutez, on devrait pouvoir dire oui d'une manière authentique. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il pourrait revenir cet après-midi, oui ou non? Ben, si t'es pas prêt, t'as un gros problème. Un très gros problème. Nous devons être prêts. Mais c'est ce qu'il dit ici. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il y a des débats sur comment, à quel moment il va revenir, mais on sait qu'il va revenir. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu es prêt? Sans aucun doute. Que si Christ revenait aujourd'hui, tu serais pris par lui et pour l'éternité. Si tu as un doute, tu n'es pas prêt. Point à la ligne. Tu n'es pas prêt. Est-ce que ça devrait nous motiver? Ben plutôt que ça devrait nous motiver. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approché. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il va revenir. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt s'il revient aujourd'hui? Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Aujourd'hui, ce serait parfait s'il revenait. Parce que la plupart des gens, je parie, n'y pensent pas trop aujourd'hui. Sauf peut-être nous, puisqu'on vient d'en parler. Mais il dit, il viendra lorsque les gens ne sont pas prêts. Donc il faut être prêt. Nous devons être prêts. Un jour de 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son événement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Là, le mot littéralement, c'est rougir. Il y aura des gens qui vont rougir le jour où il revient. Parce qu'ils ne seront pas prêts. Est-ce que tu es prêt? Et donc là, nous apprenons sur ces beaux versets qu'on ne va pas regarder en détail, tellement de choses sur Dieu. Il dit, voilà, le Seigneur va revenir. Il va revenir. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps. En son temps, c'est intéressant, là on apprend sur la suprématie de Dieu, c'est lui qui décidera le temps de son retour, en son temps. Le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, là nous apprenons quelque chose sur la souveraineté de Dieu, lui est roi des rois, lui est seigneur des seigneurs, lui est souverain. C'est pas toi, c'est Dieu qui règne. Il est seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Il est souverain. Dieu aura le dernier mot. On apprend aussi quelque chose sur l'éternité de Dieu, qui seul possède l'immortalité. Dieu a toujours été, Dieu sera pour toujours, il a toujours été. Il n'y a pas de début ni de fin, alpha et oméga. Dieu est Dieu, nous sommes rien, nous sommes petits comparés à lui. Il possède l'immortalité. Il possède la sainteté qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni peut voir. Mes amis, on n'a rien vu encore. Nous avons sa parole et nous ne pouvons que imaginer ce que ce sera. Mais il est dans une lumière inaccessible. Mes amis, le jour où il revient nous chercher, le jour où nous mourrons pour être avec lui, mais écoutez, on va être mais complètement éblouis. On ne peut même pas imaginer ce que ça va être. Et c'est pour ça qu'on est heureux. C'est pour ça qu'on attend. C'est pour ça qu'on est motivé. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous attendent dans le ciel. On apprend quelque chose sur la sainteté de Dieu, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ou n'y peut voir. On n'a pas encore vu ce qu'on va voir. Et l'honneur de Dieu, à qui appartiennent l'honneur, la puissance de Dieu, la puissance éternelle. Alors, je termine avec ceci. Nous devons être des hommes et des femmes de Dieu. Je crois que c'était vraiment clair aujourd'hui. L'homme de Dieu est caractérisé par ce qu'il fuit, par ce qu'il recherche, par ce qu'il combat, par ce qu'il saisit, par ce qu'il garde, par ce qu'il applique et par ce qu'il attend. Question. Comment devient-on homme de Dieu ? Bonne question, on ne trouve pas. Bien sûr, il faut connaître Christ personnellement. Alors, il n'y a que deux versets dans le Nouveau Testament qui ont ce terme. Là, on vient de le voir, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu », et on a vu ce qu'il faut faire. Allez avec moi à 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Et là, on va voir comment devenir homme de Dieu. Verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que, quoi ? L'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ah ! Là, nous apprenons le béaba de la vie chrétienne. Nous apprenons premièrement que les Écritures sont inspirées. Toutes les Écritures sont inspirées et sont utiles. Utiles. Pour nous enseigner, pour nous convaincre de notre péché, pour nous corriger et pour nous instruire sur la voie de la justice. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Comme incroyable. Quel super outil. Si on laisse l'écriture inspirée travailler dans nos vies, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot veut dire mature. Afin qu'il soit mature et propre à toute bonne œuvre. Tu pourras maintenant servir le Seigneur pleinement, librement, parce que tu es un homme de Dieu mature, mené par la parole de Dieu. Donc ça revient à ça. Est-ce que la parole est ta priorité, mes amis ? C'est la seule manière de devenir un homme de Dieu. Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte riche, tellement pratique. Seigneur, peut-être nous devons tous demander pardon parce que est-ce qu'on a tous vraiment vécu ces 7 points comme on ne devrait le faire ? Non, certainement pas, et moi le premier. Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui pour mes lacunes, pour mes péchés, en pensée, en parole et en action. Seigneur, merci parce que ta grâce abonde. Merci pour l'œuvre de Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, oh, je te prie de prendre ce qui est entendu ce matin, dit ce matin, ta parole, l'appliquer à leur cœur, au bon moment, de la bonne manière. Que cette personne puisse voir, oh, je veux connaître ce Dieu-là. S'il y a un chrétien ici qui s'est égaré, Seigneur, je te demande qu'il fasse appel à toi et qu'il te demande pardon, qu'il revienne à la parole. Seigneur, fais de nous une église remplie d'hommes et de femmes de Dieu. Aide-nous à nous aider les uns les autres, Seigneur. Que nous puissions être le reflet même du Seigneur et des Seigneurs. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.